Cela dit, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie, bonjour, M. Paul Godet. Bonjour, M. Godet.
Bonjour, M. Beauregard.
Vous êtes, entre autres, et je dirais entre autres parce que vous avez plusieurs chapeaux à plusieurs titres. Vous allez être un des candidats finalistes pour le prix à part entière remis cette année par l'Office des personnes handicapées du Québec. Mais ça nous a permis de faire une intro et de pouvoir aborder le sujet avec vous. Mais essentiellement, vous êtes un enseignant et un conseiller pédagogique en technologie éducative à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va se parler.
Parfait.
Vous avez déjà depuis longtemps, si je peux dire, je pense que ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous avez dans votre pratique professionnelle amorcé la démarche de faire un lien entre les élèves en pédagogie et qui vont un jour devenir pédagogues et en même temps les personnes qui reçoivent l'enseignement et qui peuvent être des personnes qui vivent avec des handicaps cognitifs.
Exactement.
Vous avez créé un pont, si je peux dire, ou un continuum.
En réalité, c'est ça, depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, j'inclus à l'intérieur de mes cours universitaires des élèves ayant des déficiences intellectuelles ou un spectre de l'autisme, un TSA, axe 2 ou axe 3, ou dépendamment des personnes. Donc, ces personnes-là sont inclus à l'intérieur de mes cours universitaires et ont des objectifs pédagogiques comme mes autres étudiants.
Et à ce moment-là, l'échange se fait entre pairs, si je peux dire.
Ben effectivement,
tout le monde apprend. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas des apprenants et des gens qui apprennent. Tout le monde est en train d'apprendre en même temps.
Exactement. Ce sont tous des apprenants. C'est qu'il y a une collégialité qui se fait entre mes futurs pédagogues, mes futurs enseignants, selon leur spécialité. On a des enseignants en enseignement du français, des mathématiques, de la géo, de l'histoire. Donc, c'est à la fois au niveau du BPEP, qu'on appelle du bac en enseignement préscolaire et primaire, et aussi en enseignement secondaire. Donc, il y a différentes disciplines. Et les élèves qui sont inclus dans mon cours, donc qui ont une déficience intellectuelle, eux vont acquérir des connaissances selon ce qu'ils préfèrent travailler. Donc, si c'est l'histoire, le français, l'anglais, les mathématiques, on va faire un jumelage à la fois dans le cours et les élèves donc vont développer leurs compétences au niveau de ces matières-là.
Et quand vous parlez d'un jumelage, est-ce que c'est un à un? Est-ce que comment ça fonctionne? C'est quoi le ratio? Vous ne pouvez pas contrôler le nombre des deux cohortes en même temps, ça peut être difficile.
Ben en réalité, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ça le défi de cette formation-là qui est complètement innovante. C'est que depuis 20 ans, justement, habituellement, les personnes étaient toujours intégrées au niveau scolaire avec un accompagnant ou encore dans des classes d'adaptation scolaire. Moi, ils sont vraiment à l'université. Ils suivent des cours à l'université avec mes étudiants et il y a un jumelage qui se fait soit par équipe, dépendamment des cohortes comme de raison. C'est sûr que si mon groupe contient 80 étudiants, c'est difficile de faire du un pour un. À ce moment-là, on a des groupes d'étudiants qui vont travailler sur une discipline précise avec, admettons, Félix-Antoine, qui est lui à une trisomie 21 et il va développer, admettons, il va travailler en géographie avec. Donc, c'est vraiment ciblé comme ça. Et ça dépend toujours, comme des raisons à l'université, les cohortes changent à chaque session, ce qui fait que, ça va dépendre du nombre d'étudiants qui est dans la cohorte au moment où le cours se donne.
Que quelqu'un veuille s'inscrire pour suivre le cours en pédagogie à l'université, c'est une chose, mais de l'autre côté, les personnes qui s'intègrent à votre cours, qui vivent avec une déficience intellectuelle, d'où viennent-ils? Comment ont-ils été référés à votre cursus?
Bon, ça a commencé il y a environ 25 ans. Donc, il y a des personnes qui étaient, en fait, compte en inclusion sociale et professionnelle par le CRDI à l'époque, qui est maintenant en Dulcius, et qui commençaient à l'UQTR. Il y avait une je commençais on va dire, à travailler à l'UQTR tranquillement, à faire des tours. Et rapidement, on a eu un lien donc avec certains d'entre eux qui sont venus me voir carrément pour dire moi, j'aimerais ça suivre des cours à l'université. Et là, ben, il n'en fallait pas plus pour que ce soit.
Là, la porte s'est ouverte.
Ah oui, et là, immédiatement, ben, il y a eu une communication avec les intervenants, les parents en premier lieu. La première personne qui a participé à mon cours, c'est Félix-Antoine Aubert. Donc, on a communiqué avec ses parents et son intervenant pour savoir, ben, pour expliquer quel serait l'avantage, en fait, de Félix-Antoine de suivre mon cours, de venir à l'intérieur du cours, de participer au cours. Tu sais, faut pas se leurrer, là, c'est 45 heures de cours.
Oui, c'est exigeant.
De la concentration pendant 3 heures. Et le but qu'il soit là, c'est qu'il acquiert des connaissances.
Oui, c'est pas un cobaye, là. C'est quelqu'un qui exactement, c'est son intégrité. De personne n'est pas remise en doute ici. Là.
Exactement. Et c'est ça qui faisait toute la différence, parce que la marge est très, très mince entre les deux. Et c'est pour ça que le rapport avec les parents était important pour de comprendre. Donc, il y a une évaluation qui est faite aussi. Est-ce que, parce que, comme de raison, c'est pas à la portée de tous.
Non.
Il y a une pré-évaluation qui est faite par moi et les personnes, les intervenantes, en fait, compte du CRDI, pour voir, donc, autant au niveau du comportement, et c'est une valorisation pour eux, donc, de dire, maintenant, moi, je peux participer au cours et apprendre des notions. Et on le fait conjointement selon leur cursus scolaire aussi.
D'accord. Et ça, on peut imaginer comment le validisme tombe rapidement, hein, parce que la perception aussi du reste de la faculté change. Est-ce que les méthodes d'enseignement ou la façon de faire... il doit y avoir un bagage d'expérience énorme qui s'est accumulé au fil de ces années-là, de
Exactement.
Savoir comment mieux enseigner à des élèves dans cette situation.
Bien, présentement, on est dans l'ère de la CUA, dans la conception universelle d'apprentissage, comme de raison. Et là, c'était à l'époque, on n'en parlait pas de ça. Et on est vraiment dans la pédagogie différenciée. Donc, on est vraiment pédagogue doit adapter sa pédagogie selon le type de clientèle qu'il va avoir devant lui, mais c'est ce qu'on fait maintenant, présentement, on en a parlé sur toutes les tribunes, c'est ça, mais si on remonte il y a 22 ans, le simple fait d'avoir des personnes qui étaient incluses dans un cours universitaire qui ne suivaient pas un cursus dit standard, donc c'était vraiment novateur, on a eu... Je dirais pas des bâtons dans les roues, mais...
Des sceptiques, peut-être.
Oui, c'est ça. Donc, il a fallu convaincre plusieurs personnes de dire qu'il y avait vraiment une plus-value. Et les parents, là-dedans, ont fait toute la différence parce que on a eu des communications. Le premier intervenant, Marc Caillotte, qui était un intervenant du CRDI, lui a compris immédiatement la philosophie vers quoi on s'en allait, puis c'est grâce à lui que ça s'était permis, parce que faut pas se... ça nécessite plusieurs heures de préparation, comme de raison en amont et en aval et en suivi. C'est sûr que c'est peut-être plus simple pour un enseignant de y aller d'une façon conventionnelle que d'y aller d'une façon, disons, très théorique et pratique, parce que ça demande beaucoup d'énergie, mais la préparation des horaires, comme vous dites, c'est deux groupes à gérer.
C'est vrai, vous devez voir, vous faites un mariage, hein, vous organisez une rencontre entre deux mondes. Déjà, des éducateurs ailleurs dans le monde, des Français, des Suisses, des Belges sont venus assister à vos cours, prendre des notes. Alors, ça fait école, ça se répand.
Ah oui, c'est ça, c'est que immédiatement par le CRDI, quand ça a été publié ou diffusé, au cours des premières années, il y avait des grosses interrogations au niveau européen de comment ça pouvait se faire, oui. Parce que pour eux, une personne ayant une déficience intellectuelle devait être automatiquement accompagnée en classe. Oui. Et c'était ce principe-là était. Puis moi, je disais, ben non, moi, ils sont tout seuls, ils participent, c'est des étudiants comme toutes les autres. Et ça fait un processus d'inclusion. Non pas seulement scolaire, mais social, oui, dans notre oui. université, qui était excellent, parce que ces étudiants-là, ils continuent leur programme, puis par la suite, ça devient des amis, ils se côtoient à la cafétéria, ils vont dîner ensemble, il y a des liens d'amitié qui sont créés, on a des histoires des personnes qui ont suivi, j'avais des membres, des joueurs de hockey, de l'école du club, des patriotes, à un moment donné, qui ont apporté des jeunes par suite pour oui. donner des cours de patin.
Ça change la vie de tout le monde, mais ça change la vie de la communauté, si je peux dire. Ça a un impact qui est important. Et peut-être que, je dirais, tout ce qu'il faudrait, ce serait d'être capable de reproduire le modèle un peu partout. Et on souhaite que, par l'exemple, là, vous soyez... qu'il y ait des répétitions, qu'il y ait des calques...
C'est ce qu'on souhaite de tout cœur.
Oui, certain.
Le but, c'était ça. Donc, c'était que, en fait, compte de peut-être commencer une démarche, mais que ça se poursuive par la suite. Puis, ce qui est très important dans l'inclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut impliquer les
gens.
En
oui,
place.
Tout à fait. Monsieur Godet, je peux pas. On va se quitter là-dessus, mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On s'en reparle.
Merci beaucoup, Monsieur Beauregard.
Bye.